Les années-lumière, édition du 15 novembre 2009. $9 millions de saumons en moins dans le fleuve Fraser en Colombie-Britannique et on ne comprend pas pourquoi. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors Gaëlle, Lucia, Berdou, cette mauvaise histoire de pêche, c'est vous qui allez nous la raconter.
Un juge a été chargé d'éclaircir la disparition de ces millions de saumons rouges, mais on sait déjà que les scientifiques manquent de réponses aux questions que lui ne manquera pas de leur poser.
Hugues de Roussan, quand les volcans dorment, on dit qu'il vaut mieux les laisser dormir, mais on va peut-être en réveiller un.
Dans les faubourgs de la ville de Naples, en Italie, un super volcan est actif, mais sans provoquer d'éruption. Et une équipe italienne de volcanologues va effectuer des forages pour voir ce qui se passe sous terre.
Chantal Srivastava, dans le courrier des années-lumière, cette semaine, il y a une auditrice qui se pose des questions sur le cours des planètes.
Elle nous demande pourquoi la Terre tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et s'il en est ainsi pour tous les corps célestes.
Puis ce sera la chronique des années-lumière. Cette semaine, Hervé Fischer réfléchit au rôle d'Internet dans la propagation des théories du complot et autres idées anti-sciences. Deuxième heure, Sophie-André Blondin, tel Ulysse ne résistant pas à l'appel des sirènes. Vous n'avez pas résisté à l'appel de la semaine du son.
Ainsi, je pourrais vous raconter des histoires de sons que j'ai récoltées dans des laboratoires d'acoustique ou auprès des inventeurs d'un ukulélé optique au rayon laser.
Faut le faire. Après le petit journal de la science, Nathalie Vigneault, qui est notre stagiaire de la Bourse Fernand Seguin. Nathalie Vigneault, vous nous parlerez des mœurs particulières de la femelle d'un passereau australien nommé le diamant mandarin.
Ce qui est surprenant, c'est que son choix n'est pas toujours en faveur du meilleur chanteur ou du plus qualifié, comme le veut la théorie traditionnelle de la sélection sexuelle.
Et pour terminer l'émission, Hugues, vous recevrez l'auteur de la semaine.
Oui, il s'agit de Éric Lambin qui a écrit « Une écologie du bonheur » paru aux éditions Le Pognier.
Mais pour commencer, les malheurs du saumon. Alors donc, Gaëlle, comme on le disait en introduction de cette émission, les saumons n'étaient pas au rendez-vous, vraiment pas au rendez-vous cette année dans le fleuve Fraser. Une mauvaise nouvelle, évidemment, pour plus d'une personne.
Oui, comme vous le disiez, une mauvaise histoire de pêche, parce que oui. De toutes les espèces de saumons du Pacifique, c'est celle dont il est question, le saumon rouge, qu'on appelle le saumon sockeye en anglais, c'est la plus prisée, c'est le saumon qui a la meilleure chair, la meilleure valeur marchande, et c'est aussi le préféré des communautés autochtones de la région sur la côte ouest. Donc, il en est arrivé 1 million cette année à l'embouchure du fleuve Fraser, où les saumons remontent pour frayer, après avoir passé quelques années en mer. 1 million au lieu des quelques 10 millions annoncés, ou prédits si vous voulez, et c'est une catastrophe pour beaucoup de monde. Donc, devant l'incompréhension et les appels de plusieurs groupes, les écologistes, les autochtones, les pêcheurs et autres, le gouvernement fédéral a annoncé la tenue d'une enquête judiciaire pour faire la lumière sur ce déclin du saumon rouge. C'est un juge de la Cour suprême de Colombie-Britannique, Bruce Cohen, qui a été chargé de mener cette enquête, une enquête pendant laquelle il aura notamment le pouvoir d'assigner des témoins à comparaître. Son rapport, son premier rapport préliminaire, est attendu avant le mois d'août.
2010, donc. Donc, le juge Cohen va pouvoir assigner des témoins à comparaître. C'est pour le moins inusité dans une enquête qui va se pencher sur le sort d'une espèce de poisson, quand même. Mais j'imagine que parmi ces témoins, on va trouver des scientifiques, quand même.
Oui, sans doute, sans doute. Mais ceux auxquels j'ai parlé pour l'instant, jusqu'à maintenant, s'interrogent quand même sur la pertinence d'un tel processus pour éclaircir la disparition, si on veut, entre guillemets, de millions de poissons. J'en ai discuté avec Paul Leblond, qui est océanographe et qui présidait jusqu'au printemps dernier le Conseil pour la conservation des ressources halieutiques du Pacifique. Lui parle plutôt d'une erreur de décompte, si vous voulez. Les poissons n'ont pas disparu, mais on s'est simplement trompé dans la façon de prédire combien reviendrait au fleuve Fraser. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé à ces poissons qu'on attendait? C'est ce que les scientifiques vont tenter d'expliquer, mais c'est loin d'être certain qu'ils y parviennent. On écoute Paul Leblond.
Pour expliquer où sont allés les saumons, il y a beaucoup d'explications. Et c'est justement le problème. on se dit que peut-être que c'est tous ces saumons, quand ils ont passé leur un an ou deux ou trois en mer, ils ont subi la prédation par des poissons plus gros, ils n'ont peut-être pas eu assez à manger, ils sont peut-être morts en route. Alors, toutes ces choses-là, c'est pas facile à prédire d'avance. Et l'information disponible aux scientifiques du ministère des Pêches et Océans ne suffit pas à faire des prédictions très justes.
Et ce sont des espèces, les saumons du Pacifique, qui vivent une bonne partie de leur vie, justement, vous le disiez, dans l'océan. Et c'est peut-être cette partie-là qu'on connaît mal, parce que la partie en rivière est beaucoup mieux connue.
Les saumons, ils viennent frayer d'abord. Il faut qu'ils remontent les rivières. Il y en a qui remontent la rivière jusqu'à 1000 km de l'océan. Ils sont sujets à toutes sortes de hasards durant cette remontée, mais cette remontée est assez bien connue. On peut les voir, ils sont gros. Ensuite, les œufs éclosent. Ils passent, disons, un certain temps, selon les espèces et selon les races, dans les lacs ou dans les rivières. Là, on les perd un peu de vue. Et quand ils deviennent assez gros, ils retournent en mer. Et encore là, il y a une période de descente de rivière qu'on connaît mal et il y a une période de jeunesse, disons, qui se passe dans les eaux peu profondes, côtières, qu'on connaît mal aussi. Ce qu'on connaît bien, c'est le nombre de poissons qui vient frayer. Et les modèles présents comptent surtout sur ce nombre de poissons qui viennent frayer et font une prédiction basé uniquement sur ce nombre de poissons, ou presque uniquement sur ce nombre de poissons, pour 4 ans dans le futur. Alors, il se passe toutes sortes de choses dans ces 4 années, et peut-être que cette enquête judiciaire va permettre de fournir des arguments pour combler ces lacunes de connaissances.
Le sonographe Paul Leblon, Monsieur Leblon, elle parle de combler des lacunes dans les connaissances. Il semble qu'il y a pas mal de lacunes à combler. Hein?
Oui, quelques trous, et c'est en partie parce que étudier les saumons, surtout en mer, c'est complexe et évidemment, ça coûte cher. Donc, on manque de connaissances, mais pas des hypothèses assez pertinentes d'ailleurs pour expliquer le déclin des saumons rouges. On parle notamment des changements climatiques en ce moment qui pourraient influencer de toutes sortes de façons la survie de ces poissons en mer. Et on parle aussi, et c'est une idée qui revient souvent, de la présence sur la côte ouest d'élevages de saumons. Les élevages où les saumons peuvent entrer en contact avec les saumons sauvages, les populations sauvages, des élevages où on retrouve aussi certains parasites, notamment le pou du poisson qui est souvent montré du doigt. C'est un parasite qui peut affecter la survie des saumons sauvages. À nouveau, on écoute Paul Leblon.
C'est une question qui a fait beaucoup d'encre et qui est en partie derrière cette demande pour une enquête judiciaire. C'est justement l'impact des fermes de poissons, l'impact des parasites qui s'échappent et qui s'attachent aux bébés sockeye et aux bébés saumon rose et qui les affaiblissent et qui les rendent plus sujets à être mangés par d'autres ou mourir de faim. Alors, cet impact est mal documenté. Est très controversé. Il y a des publications scientifiques qui prétendent montrer que c'est un impact important pour les populations.
Des publications sérieuses, d'ailleurs, hein, dans Science, des revues comme ça.
Oui, mais ce sont des... Il reste des disputes scientifiques dans ce domaine. Les gens publient des publications qui arrivent à des conclusions contraires. Alors... pour trancher, ben il faut plus d'informations, plus d'échantillonnage. Mais de toute façon, c'est bien de voir que ces disputes vont maintenant se présenter devant une personne qui n'a pas de prétention à la ressource et qui est impartiale.
Paul Leblon, donc, qui est océanographe. Alors, Gaëlle, bon, il y a des questions, on le voit, hein, qui restent sans réponse en ce qui concerne le saumon du Pacifique en général et le saumon rouge en particulier. Du côté saumon atlantique, est-ce qu'on est plus connaisseur?
Pas tellement. En fait, non. Il faut dire que comme son cousin du Pacifique, le saumon atlantique passe une bonne partie de sa vie en mer. Il revient frayer, se reproduire dans sa rivière natale. J'ai tenté d'en savoir un peu plus sur la situation du saumon atlantique en particulier et des menaces à sa survie auprès de Pêche et Océan Canada, mais on a refusé de m'accorder une entrevue.
Ah oui.
J'imagine qu'en revanche, on les entendra dans le cadre de cette fameuse enquête judiciaire. En tout cas, on sait que le saumon atlantique a lui aussi subi des baisses marquées de sa population migration, notamment sur la côte est canadienne, depuis les 20 dernières années. Et on comprend encore mal, là aussi, pourquoi. Alors, est-ce qu'on peut envisager un scénario catastrophe, disons-le, du type de celui du saumon rouge dans le cas du saumon atlantique? J'ai posé la question au biologiste Julian Dodson de l'Université Laval.
Pour le saumon atlantique, d'abord, le saumon atlantique est beaucoup moins abondant que les différents saumons du Pacifique. Et donc, les fluctuations de cette ampleur, on le voit presque jamais avec le saumon atlantique.
On parle de quel type de différence de nombre?
Bien, sur la côte pacifique, on estime les montaisons en termes de millions de poissons. Mm-hmm. Ici, dans les rivières de Québec et les maritimes, c'est rare les montaisons qui dépassent quelques milliers de poissons. Donc, on parle de 100 fois plus de saumon pacifique. Et donc, les petits changements dans la survie en mer peuvent avoir un impact énorme sur l'abondance des poissons une fois qu'ils migrent vers la rivière.
Et donc, vous dites que la variabilité des prédictions est moins grande dans le cas du saumon de l'Atlantique?
Oui, simplement parce que les survies en mer sont beaucoup plus faibles, de toute façon, sur l'Atlantique. Au meilleur, si je peux parler de façon très, très moyenne, là, il y a peut-être une survie de 5% en mer chez le saumon atlantique, qui avait chuté en bas de 1% au début des années 90. Tandis que dans le Pacifique, il y a des estimés de survie en mer qui approchent le 50% et qui peuvent chuter jusqu'à 5% de survie. Donc, l'écart de variation semble être beaucoup plus important.
Monsieur Dodson, dans le cas du saumon rouge, du saumon sockeye, on a beaucoup montré du doigt les élevages de saumon qui sont dans la région pour expliquer peut-être la disparition d'un certain nombre de ces poissons. Est-ce que ce problème-là est aussi important sur la côte atlantique?
C'est certain qu'il y a les problèmes potentiels entre l'aquiculture, l'élevage du saumon atlantique domestiqué en cage et le saumon atlantique qui existe en milieu naturel, dans leur état sauvage. C'est particulièrement problématique sur la côte est, bien sûr, parce que le saumon atlantique est présent sur la côte est, dans son état sauvage et naturel. Il y a des possibilités d'interaction écologique, par exemple, la transmission des maladies, les parasites. Il y a aussi potentiellement les problèmes génétiques à cause de l'introgression d'un génome domestiqué vers un génome d'une espèce sauvage.
Donc la question sur la côte est peut-être pas tant la transmission de maladies d'un élevage à une population sauvage, mais encore plus la question de la transmission de gènes, dans le fond, puisque c'est la même espèce qui se côtoie.
Voilà, exactement. Et bien sûr, l'espèce en captivité est sélectionnée pour certaines qualités, pour certaines performances en captivité. Et bien sûr, ces mêmes gènes en milieu naturel ne sont pas du tout adaptatifs. Donc, c'est une genre de pollution génétique, quoi.
Et est-ce que ces effets-là se voient déjà?
C'est très contentieux. C'est difficile. Souvent, les relations sont indirectes. C'est les corrélations. Là où il y a beaucoup de cultures, les populations sauvages de saumon sont moins abondants, ils subissent les pertes. Mais le lien direct, l'évidence génétique ou l'évidence écologique d'une interaction est pas très solide.
Et on imagine bien que ces élevages, qui sont quand même essentiellement des filets qui contiennent des saumons dans un milieu marin, évidemment, s'il y en a qui s'échappent, c'est le principe de ce que vous appelez une pollution génétique, si on veut. Et qu'est-ce qui se passe avec ça sur la côte ouest? Parce que là-bas aussi, on élève des saumons atlantiques dans le Pacifique.
Oui, bien, sur la côte ouest, il y a toujours la possibilité des interactions de nature écologique, transmission de maladies, etc. Il y a des échappements de saumons atlantiques sur la côte ouest. Mais là, c'est pas un problème tellement d'introgression avec une espèce indigène, mais plutôt simplement l'occupation des habitats et possiblement la compétition avec les espèces indigènes. On trouve les jeunes saumons atlantiques dans les rivières,
occupée par le saumon du Pacifique. Le potentiel pour une compétition est définitivement réel.
Julian Dodson, qui est biologiste à l'Université Laval. Donc, Gaël, on parle grosso modo de l'introduction volontaire d'une espèce exotique.
Et oui, et il faudra voir si le saumon atlantique s'implantera effectivement sur la côte ouest. C'est encore un point d'interrogation à travers ces élevages et surtout quel impact ça aura sur les espèces indigènes de saumon. Mais M. Dodson me disait que les chercheurs soupçonnent qu'au Chili, où on élève beaucoup de saumon atlantique, il serait déjà en voie de coloniser littéralement la côte pacifique. Reste à mesurer là aussi les conséquences de cette colonisation.
Merci beaucoup, Gaëlle.
Je vous en prie.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière avec Yannick Villedieu.
Il y a environ 40 000 ans, la région où se trouve aujourd'hui Naples, en Italie, était secouée par une super éruption volcanique qui a laissé des traces dans l'atmosphère pendant plusieurs années. Cette première éruption a été suivie par une deuxième, plus modeste, il y a 15 000 ans. Depuis, le volcan s'est assagi, c'est bien, mais il est toujours actif. Une équipe italienne va entreprendre le mois prochain des forages pour tenter d'expliquer le comportement de ce volcan voisin du Vésuve, mais qui ne lui ressemble pas du tout, hein, Hugues de Roussin?
Oui, ce super volcan, il est connu sous le nom de volcan des champs flégréens, et c'est aussi le voisin du Vésuve qui trône dans la baie de Naples, le Vésuve qui, on sait, a détruit la ville de Pompéi en 79 avant Jésus-Christ. Alors, ces champs flégréens connaissent depuis plusieurs années des soubresauts. Il y en a eu dans les années 70, encore une fois dans les années 80. Et en 1984, il y avait même eu une évacuation de 20 000 personnes.
Ah, oui, oui.
Et au cours de ces deux épisodes, le sol s'était élevé de près de 2 ou 3 mètres. Alors, le volcan des champs flégréens, eh bien, c'est ce qu'on appelle une caldeira. En fait, il y en a deux, l'une dans l'autre. La plus grande a 20 km de diamètre et a été formée par la première grande éruption dont on parlait. Et la deuxième, plus petite à l'intérieur de la première, eh bien, a été formée par la deuxième et a 10 km de diamètre. On écoute John Stix, volcanologue et professeur à l'Université McGill.
La chose intéressante est qu'aujourd'hui, la région reste active car il y a une déformation de la Terre. Le niveau de la surface augmente, le niveau de la surface diminue et les taux de gonflement, de diminution sont rapides. Par exemple, 1 cm, 2 cm par an. Et exceptionnellement, je crois que dans les années 80, il y a un gonflement extrêmement rapide, 1 mètre dans un an, sans éruption. Donc, ces régions qui sont très actives au point de vue du volcanisme, il y a des changements sur la surface, mais pas nécessairement des éruptions.
D'habitude, quand on a une image de volcan, on voit une montagne avec un cratère au-dessus. C'est pas le cas pour les champs flégréens.
C'est un type de volcan qui s'appelle une caldeira, et dans un sens, c'est un volcan inverse, où au lieu d'un édifice, vous avez une dépression. Et la dépression existe car pendant la dernière grande éruption, il y a une éruption de magma, d'un réservoir, d'une chambre au-dessus de la surface. Et avec cette évacuation, il y avait une dépression qui a formé à la surface.
Un effondrement?
Un effondrement, exactement.
Donc, au lieu d'avoir un cratère traditionnel, on a en quelque sorte un trou dans le sol.
Ce n'est pas exactement un cratère créé par une explosion. C'est plutôt une dépression formée par l'effondrement, car il y a un vide qui existait lors de l'émission du magma pendant la grande éruption.
Quand on parle de grande éruption, la première il y a environ 35-40 000 ans et la deuxième il y a 15 000 ans, donnez-moi un ordre de grandeur. Qu'est-ce que ça fait comme dégâts?
Ces types d'éruptions sont très intéressantes parce qu'ils sont énormes. La quantité de magma et de gaz émis sont impressionnantes. Ça peut couvrir la surface de la Terre pour une grande aire. Ça peut causer beaucoup de problèmes, pas juste pour la population locale, mais aussi pour ce type d'éruption en Europe aujourd'hui. Ça peut causer beaucoup de problèmes dans l'Europe, par exemple, et même dans le monde. Parce que ces grandes éruptions lancent des matériaux dans l'atmosphère à une altitude très élevée et il y a une circulation de ces matériaux, de cendres, de gaz, qui peut affecter le climat de la Terre pendant quelques ans.
Si on prend un exemple qu'on connaît un peu mieux aujourd'hui, c'est le Krakatoa, quand il a explosé au 19e siècle. La cendre a fait trois fois le tour de la Terre, c'est ce qu'on dit. La couleur du lever, du coucher du soleil a changé pendant des mois. Est-ce que c'est l'équivalent ou c'était encore plus ces deux grandes éruptions il y a 40 000 ans et il y a 15 000 ans?
Le Krakatoa était une éruption impressionnante parce que nous avons des informations historiques de ce volcan. Mais cette éruption en 1883, si je me rappelle bien, était dans un sens une petite éruption. Ces éruptions des champs phlégréens étaient plus grandes.
John Stix, qui est volcanologue à l'Université McGill. Alors Hugues, vous l'avez dit, ce super volcan, il est toujours actif. Et pour tenter de mieux comprendre ce qui se passe dans ses flancs, il y a une équipe italienne qui a décidé d'aller y voir de plus près.
Oui, Yannick, cette équipe va entreprendre le mois prochain une série de forages pour étudier la structure géologique du volcan. Un volcan dont la hauteur est de 458 mètres, comparativement à 1250 environ pour le Vésuve. Donc, deux forages seront effectués dans le sous-sol et six autres seront effectués dans la baie de Naples parce qu'une partie de la caldeira se trouve sous la mer. Alors, je disais tout à l'heure que le niveau du sol a bougé plusieurs fois depuis 35 ans, mais il y a aussi des fuites de gaz qui s'échappent du sol, ce qui fait que les champs phlégréens sont parmi les volcans les plus surveillés au monde, d'autant plus qu'ils se trouvent dans une zone habitée à haute densité et j'ai nommé les faubourgs de Naples. Et c'est un projet de forage qui vise deux grands objectifs. Anthony Finizzola est volcanologue et maître de conférence à l'Institut physique du globe de Paris.
Il y a deux grandes questions pour lesquelles ces chercheurs vont tenter de répondre. D'une part, c'est arriver à connaître la profondeur du magma. Alors c'est quelque chose qui n'est pas très bien connu pour diverses raisons. Au niveau des profils sismiques, c'est pas toujours évident d'arriver à déterminer avec des autres méthodes géophysiques à quelle profondeur se situe le magma. L'objectif de ces forages, alors il faut savoir que sur les deux forages à terre, le premier forage qui va être un premier forage d'essai va faire 2 km. Et le deuxième forage à terre qui va être réalisé va avoir une profondeur de 4 km. On sait que la profondeur de la caldeira se situe à peu près à 3 km. Donc là, en faisant un forage à 4 km, on va pouvoir dépasser le fond de la caldeira. On va pouvoir aussi dépasser tous les niveaux aquifères superficiels, donc là où circule l'eau en subsurface. Alors ça, c'est quelque chose de particulièrement important parce que l'objectif, effectivement, de ce forage, le deuxième, donc le plus profond, ça va être de dépasser les zones où il y a de l'eau qui circule pour arriver dans une zone complètement sèche et arriver à définir à partir de là le gradient, ce qu'on appelle le gradient géothermique, c'est-à-dire le nombre de degrés d'élévation de température en fonction de la profondeur. Un des objectifs de ce forage à 4 km de profondeur, c'est être capable de voir à quelle profondeur on est censé atteindre ce qu'on appelle l'isotherme 1000 degrés, c'est-à-dire la température de 1000 degrés où on aurait les conditions favorables à la présence d'un réservoir magmatique.
Est-ce que ça va permettre justement de prévoir une éventuelle éruption?
Il y a deux aspects. Donc effectivement, ça c'est un des aspects, c'est un aspect je dirais plutôt géométrique, c'est-à-dire arriver à prédire la profondeur du magma. Le deuxième objectif de ce forage, c'est être capable de... il va y avoir donc un prélèvement des roches et il y a plein d'études qui sont prévues sur ces roches depuis la surface jusqu'à 4 km de profondeur. Et l'objectif de ces prélèvements, c'est en fait d'étudier à la fois les propriétés mécaniques, les propriétés chimiques et les propriétés rhéologiques de ces roches, c'est-à-dire voir comment ces roches réagissent à la pression, entre autres la pression interne, comme je vous ai parlé de ces fameux aquifères qui dilatent le sol. L'objectif de toutes ces études, donc mécaniques, chimiques et rhéologiques au niveau des roches, ça va être de mieux comprendre ces phénomènes de bradysisme, c'est-à-dire ces phénomènes de mouvement du sol. Et la finalité de toutes ces études, c'est arriver à construire un modèle physique sur les phénomènes qui seront des précurseurs donc de futures éruptions. C'est-à-dire être capable de dire que sous les champs phlégréens, on a une succession de diverses roches qui ont diverses caractéristiques, compétences mécaniques, physiques, rhéologiques, qui vont donc résister à diverses pressions, qui sont susceptibles de résister à diverses pressions magmatiques, et d'être capable d'élaborer ces modèles pour soit le plus près de la réalité, en ayant en fait tous les paramètres physiques du sous-sol. Donc on va pouvoir mieux comprendre, mieux prévoir et mieux définir aussi l'évolution de ces champs phlégréens sur une possible éruption future.
Et pour bien entendu pouvoir amener à une évacuation de la région s'il y a une éruption qui est prévue.
Bien entendu.
Le volcanologue Anthony Finizzola. Alors faire des forages dans les flancs d'un volcan, Hugues, ça pourrait être un petit peu dangereux, là, d'autant plus qu'on est tout près du Vésuve, non?
Oui, en fait, sur la question du forage, les vulcanologues ne semblent pas avoir de crainte du tout. Quant aux deux volcans, le Vésuve et celui des champs phlégréens, eh bien, ce sont deux formations volcaniques différentes qui, en principe, ne sont pas interreliées. On écoute à nouveau John Stix.
Il n'y a pas de connexion directe entre les champs phlégréens et le Vésuve, mais la région est très active au point de vue du volcanisme. Donc, il y a des risques spécifiques donnés par les champs phlégréens. Il y a d'autres risques posés par le Vésuve. Donc, les gens de Naples doivent vivre avec ces deux volcans actifs, un à côté de l'autre dans la région. Une autre chose qui est un problème pour le Naples, quand vous avez un volcan près de la mer, comme le champ phlégréen, les éruptions peuvent être très explosives parce que vous avez une interaction avec le magma et l'eau de mer. Et cette interaction augmente l'explosivité de ces types d'éruptions.
Alors, vous avez deux volcans, un qui a une forme de montagne avec un cratère et l'autre qui a une dépression, mais vous dites que c'est vraiment deux formations différentes l'une à côté de l'autre qui ne se nourrissent pas mutuellement. Si un des volcans rentre en éruption, le deuxième, il ne suit pas forcément.
Il y a une possibilité d'une connexion entre les deux. Pas une connexion directe, mais une connexion. Nous voyons que souvent, il y a des tremblements de terre qui sont très loin des volcans et qui provoquent une éruption. Donc, il y a des stress dans la terre, dans la croûte, qui sont transmis à travers une faille après ou pendant un tremblement de terre qui peut provoquer une éruption si le volcan est prêt à érupter.
Et est-ce qu'à ce moment-là, un des deux volcans est-il prêt à avoir une éruption ou c'est une période qui est relativement calme?
Non, à ce moment, je crois qu'ils ne sont pas prêts. Probablement, ils vont montrer des signaux avant leur éruption. Les éruptions sont plus faciles à prévoir que les tremblements de terre, par exemple. Donc, il y a des indications avant une éruption, la sismicité, les petits tremblements de terre, l'émission de gaz, etc. La chose intéressante, qui est problématique dans un sens aussi, est qu'au Phlegrean Fields, les champs phlégréens, nous voyons ce gonflement sans éruption. Il est difficile de dire que si ce gonflement est suivi par une éruption ou non. Souvent, il y a un gonflement, peut-être des mouvements de magma en dessous de la surface sans éruption. Et ça, c'est intéressant et mal connu par les scientifiques.
C'était John Stix, volcanologue à l'Université McGill.
Il y a peut-être une troisième raison, Yannick, pour ce projet de forage. C'est plutôt économique que scientifique. L'eau chaude dont on a parlé, qui se trouve dans le sous-sol sous le volcan, a un grand potentiel géothermique et elle pourrait être utilisée pour produire directement de la chaleur ou encore de l'électricité.
Mais tiens. Merci beaucoup, Hugues.
Au revoir.
Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada à venir en deuxième heure. Préparez vos oreilles, la semaine du son commence à travers le Québec. C'est le moment d'aller visiter des laboratoires comme celui du groupe d'acoustique de l'Université de Sherbrooke.
Et c'est ici la chambre réverbérante.
Cette chambre-là est montée sur ressort, ce qui permet de l'isoler complètement du reste de la bâtisse. C'est une construction avec des gros murs épais en béton qui sont traités, recouverts avec une peinture très spéciale. On a ici
le maximum de réverbération, d'écho possible.
Et c'est maintenant l'heure du facteur. Voici la question de la semaine.
Bonjour, moi j'appelle pour savoir pourquoi la planète tourne celle de gauche à droite et non pas de droite à gauche. J'aimerais savoir aussi s'il existe des galaxies où les planètes tournent dans l'autre sens que le sens dans lequel la Terre tourne. Merci, au revoir.
Et oui, elle tourne. Notre bonne vieille Terre. Alors, pour répondre à la question de notre auditrice, Chantal Srivastava a joint Pierre Chastenet, astronome au Planétarium de Montréal. Il fait tout d'abord une nuance importante en expliquant quelle est la différence entre la rotation et la révolution d'une planète.
Le mouvement de rotation, c'est un objet qui tourne sur lui-même. C'est différent, bien sûr, de la révolution, où là, on parle d'un objet qui est en orbite autour d'un autre objet. Donc, si par exemple, vous avez un tabouret au centre de la pièce et que vous en faites le tour, vous avez fait une révolution autour du tabouret. Donc, ce sont deux mouvements distincts.
Est-ce qu'ils vont nécessairement dans le même sens pour ce qui est de notre Terre?
Pas seulement pour la Terre, mais pour la majorité des planètes du système solaire, la réponse est oui. C'est-à-dire que, par exemple, si on s'installe loin au-dessus du pôle nord de la Terre et qu'on regarde vers notre planète, on va constater qu'elle tourne sur elle-même dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
Donc, de gauche à droite, comme le dit notre auditrice?
Voilà, exactement. Maintenant, cette définition-là est tout à fait arbitraire parce que si on était en Australie puis qu'on s'en allait au-dessus du pôle sud et qu'on regardait vers la Terre, on la verrait tourner dans l'autre sens. Donc, la direction de la rotation jusqu'à un certain point, c'est arbitraire. Puis, quand on regarde l'ensemble du système solaire, donc on s'éloigne encore de la Terre jusqu'à embrasser l'ensemble du système solaire, on constate que toutes les planètes tournent autour du Soleil, elles avancent sur leurs orbites, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Encore une fois, si on est loin au-dessus du pôle nord de la Terre. C'est vrai également que la majorité des planètes tournent sur elles-mêmes dans cette même direction, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais il y a l'exception de Vénus, qui, elle, tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. On pense que c'est dû à une collision que Vénus aurait subie après sa formation et qui l'aurait fait basculer sur son axe. Donc, dans le cas de Vénus, c'est vraiment le fruit d'un accident. Il y a une autre planète qui présente une rotation particulière, c'est Uranus, parce qu'Uranus est presque complètement couché sur le côté. Donc, encore une fois, c'est un peu comme un baril qui roulerait sur son orbite plutôt qu'une planète qui tourne comme une toupie, comme c'est le cas de la Terre, par exemple. Et aussi, dans le cas d'Uranus, on pense que c'est le fruit d'une collision subie peu de temps après sa formation. Donc, quand on regarde la théorie de la formation des planètes et du système solaire dans son ensemble, c'est facile d'expliquer pourquoi tous ces objets-là tournent sur eux-mêmes et sont en révolution autour du Soleil dans la même direction. C'est qu'ils sont tous nés d'un même nuage de gaz et de poussière qu'on appelle une nébuleuse, qui s'est lentement effondrée sur elle-même, probablement provoquée cet effondrement par l'explosion d'une supernova à proximité. Donc, il y a une onde de choc qui est venue balayer le nuage, la nébuleuse, et qui a provoqué donc son effondrement, et qui l'a peut-être aussi mis en rotation sur elle-même, très lente au début. Mais vous avez déjà vu des images d'une patineuse artistique qui éventuellement est en rotation comme une toupie. Elle ramène ses bras vers elle et elle se met à tourner de plus en plus vite. Je pense qu'on a tous la même image en tête. Alors, il se passe la même chose pour une nébuleuse qui est extrêmement vaste et qui éventuellement diminue de diamètre, de volume au fur et à mesure qu'elle s'effondre.
Est-ce que c'est comme ça dans d'autres galaxies ou tout simplement autour d'autres étoiles?
En fait, c'est comme ça partout dans l'univers parce que le processus de formation du système solaire que je viens de décrire, où une nébuleuse s'effondre sur elle-même et éventuellement se met à tourner plus vite et éventuellement il y a des tourbillons qui se forment qui donnent naissance aux planètes au sein de cette nébuleuse en contraction, ce processus-là, d'après ce que l'on sait, il est également à l'œuvre lorsqu'une galaxie se forme, lorsqu'un amas de galaxies se forme. Et donc, il s'agit qu'il y ait de minuscules rotations de ces immenses ensembles pour qu'au fur et à mesure qu'ils se contractent, ces rotations et ces révolutions s'accélèrent et donnent naissance au mouvement de rotation que l'on observe aujourd'hui, autant chez les étoiles que chez les planètes que chez les galaxies. La question à laquelle on ne peut pas répondre, mais qui découle immédiatement de cette constatation-là, c'est est-ce que l'univers dans son ensemble tourne sur lui-même? Mais malheureusement, parce qu'on est à l'intérieur et qu'on n'a pas de point de référence qui nous permettrait de mesurer la rotation de l'univers, on n'est pas capable de répondre à cette question, mais qui demeure une question fascinante.
Pierre Chastenet, je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions.
Ça me fait plaisir, Chantal.
Au revoir.
Je vous en prie, au revoir.
Chantal, donc, Srivastava s'entretenait avec Pierre Chastenet du Planétarium de Montréal. Si vous avez, vous aussi, des questions à nous poser, en fait, à poser à nos experts, vous pouvez le faire par téléphone de la région de Montréal. Vous composez le 514-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous faites le 1-800-752-9050. Puis, il y a bien sûr le courriel lumière@radio-canada.ca. Chronique des années-lumière pour terminer cette première heure, une heure qu'on ne passera pas sans parler nous aussi du sujet de l'heure, hein, la grippe H1N1, et on va le faire avec vous Hervé Fischer. Bonjour Hervé.
Bonjour Yannick.
Vous avez patrouillé donc la grande toile, vous avez patrouillé le web pour savoir comment on parle de cette fameuse grippe, notamment comment on colporte la théorie du complot.
Oui, j'ai eu des frayeurs.
Oui.
J'ai eu des frayeurs parce qu'il y a vraiment des gens qui pensent et qui l'écrivent, quelquefois sous des pseudonymes, quand même, que c'est un complot mondial qui serait même lié à la grande crise économique et financière qu'on traverse. Donc, au fond, il y aurait une convergence de la part de différents gouvernements pour arriver. On se demande à quoi. Mais finalement, il y en a qui parlent d'un nouvel ordre mondial. Alors là, tout est vraiment utilisé.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, on dit ben, pourquoi les médias en parlent tant alors qu'on ne parle pas de la grippe ordinaire et qui fait beaucoup plus de morts à date? Pourquoi est-ce qu'on en parle tant alors que dans la malaria où il y a beaucoup plus de morts, on n'en parle pas? Donc manifestement,
oui,
il y a une volonté. Il y a un dispositif qui a été mis en place mondialement. Bon, il y en a d'autres aussi qui disent, bon, c'est évident que cette grippe-là, elle a été répandue par exemple à partir du Mexique. Et c'est une arme de destruction massive qui va faire son chemin d'une façon absolument... Absolument, on ne pourra pas l'arrêter. Il y en a d'autres qui pensent que la preuve, d'ailleurs, c'est qu'il y a dedans des produits qui diminuent le système immunitaire. Et puis, il y en a d'autres qui pensent aussi qu'on n'a pas eu le temps. C'est clair qu'on n'a pas eu le temps de tester et que donc, comme on voit que... Alors, comme le vaccin n'a jamais servi à rien, c'est prouvé.
Oui.
Et comme on voit que la grippe espagnole, bon, ben, c'est aussi des erreurs médicales de ce genre, il ne faut surtout pas mettre ce qu'ils appellent cette cochonnerie dans son corps.
Oui. Alors, il y a les deux extrêmes à ce niveau-là. Hein. Il y a soit ce virus-là va tous nous tuer, le virus, le vaccin, enfin, toute cette sauce-là.
Vaccin, encore plus que le virus.
Oui, va tuer tout le monde. Ou alors, ben non, mais c'est une conspiration parce que c'est un virus complètement inoffensif, hein, les deux extrêmes. Hein.
Et puis, on met en cause toujours la technostructure, les grosses entreprises pharmaceutiques, les gouvernements et les médias.
Bon. Oui.
Et alors, avec aussi cette idée qu'il y a certains qui sont des écologistes qui pensent que nous sommes trop de milliards d'habitants sur cette planète.
Trop de monde sur la planète.
Trop de monde. Et que donc, c'est la sagesse de la nature qui doit et qu'il faut laisser faire, supprimer un milliard ou deux de manière à ce qu'on puisse vivre normalement cette et même qui se propose d'accepter de mourir lui-même si ça doit être son destin.
Ah ouais. On met beaucoup en cause évidemment les gouvernements et leur propagande.
Oui, propagande.
Leur contrôle sur les citoyens.
Et ça, c'est vraiment très étonnant parce qu'on a même des Québécois qui disent, je ne sais pas s'ils se rappellent les mesures de guerre de l'époque, qui disent est-ce qu'on va être obligé d'être vacciné, est-ce que l'armée va frapper à notre porte et sous la menace des mitraillettes nous faire vacciner.
Mmh. Bon,
c'est ça qui va arriver. Alors, c'est une sorte de terrorisme d'État et qui est absolument la fin du monde.
C'est ça, mais qui se répand grâce à Internet de façon extrêmement rapide. Il y a aussi, il y a non seulement des textes, mais il y a aussi beaucoup de vidéos.
Par exemple. Alors là, il faut voir les vidéos qui sont sur YouTube et qui sont très, très fréquentées d'après les chiffres. Alors, il y en a un qui s'appelle Vaccination meurtrière, l'autre qui s'appelle Incroyable lien entre la crise économique et la grippe A. Un autre qui nous dit que le vaccin est une arme de destruction massive. Un autre qui nous dit la pandémie, c'est ce qui va nous conduire à un nouvel ordre mondial. Et j'en passe, la vérité cachée.
Oui,
la vérité cachée de la vaccination et de la pandémie.
Donc le web permet de diffuser très rapidement ce genre d'idées.
De rumeurs.
Organisées, de rumeurs, de rumeurs de complot. Mais c'est quand même le reflet d'un débat, de débat de société.
Oui.
oui. pensez-vous?
Je pense qu'il faut le considérer comme ça aussi, parce que quand les gens discutent sur différents symptômes, le degré de préparation d'un virus, qu'est-ce qu'il y a dedans, le système immunitaire, et même éventuellement les conspirations politiques, économiques, etc., il y a quand même un débat de société. D'un côté, on se rend compte qu'il y a une immaturité qui est assez désolante, à vrai dire, et qui explique que quelquefois, on ait des surprises dans la démocratie aussi.
Oui, oui.
Mais d'un autre côté, c'est quand même un apprentissage. Les gens se donnent la peine d'écrire, d'échanger des idées, d'argumenter. Et il y a au fond, finalement, quand même quelque chose qui va dans la bonne direction, qui est que on réfléchit, on discute, on écrit. Maintenant, moi, j'étais assez effrayé par cette immaturité. Je veux dire, je suis quand même quelqu'un qui s'occupe de culture scientifique.
Depuis un certain nombre d'années, n'est-ce pas? Oui.
Mais oui, on s'occupe beaucoup, on croit oui. obtenir des résultats. Et puis, quand on voit le degré primaire, paranoïaque, émotif, qui favorise tellement de rumeurs aussi difficile à comprendre.
Incroyable, oui.
On
exactement.
Se dit, le niveau de maturité, de rationalité, d'objectivité de l'espèce humaine, quand même des gens qui ont accès à l'Internet, etc., est encore assez modeste.
Oui, l'esprit scientifique, l'esprit rationnel n'est pas la chose du monde la mieux partagée.
Hélas, Yannick, c'est vraiment désespérant.
Oui, effectivement, de voir ça. La conclusion, Hervé, c'est que quand on regarde, quand on fait ce petit voyage sur Internet, comme beaucoup l'ont fait d'ailleurs, mais quand vous faites un voyage comme ça, c'est que finalement, l'Internet, c'est un peu comme la langue d'Ésope, c'est à la fois la meilleure et la pire des choses.
Oui, c'est toujours la même chose. C'est ce que j'appelle la pomme numérique. C'est-à-dire, en même temps, il y a un degré de conscience qui se développe. Et en même temps, bon, ben, avec la conscience viennent le bien et le mal.
Oui.
Et donc je crois qu'il faut rester positif. Tous les blogs qui foisonnent, finalement, on voit des gens quand même qui s'interrogent, on voit des gens qui développent une conscience. C'est un degré numéro 1 ou numéro 2 d'une conscience dont on espère qu'à l'avenir, elle atteindra le numéro 10.
Oui, effectivement, parce que, effectivement, avec cette technologie-là, Internet, qu'on apprend à utiliser, au fond, on peut aller un peu n'importe où et nulle part, parfois.
Mais je crois aussi que nous avons d'autant plus un devoir, au point de vue gouvernemental, de faire une pédagogie sur Internet par rapport à un problème comme celui-là, que nous avons vraiment la nécessité de continuer, nous autres organismes de culture scientifique, à travailler fort, parce que l'outil est là. Mais il faut être présent sur l'outil. Il ne faut pas laisser la parole sur Internet à ceux qui écrivent trop. C'est comme dans les journaux, ceux qui écrivent tous les deux jours pour se plaindre que la Lune ne tourne pas dans le bon sens. Je pense que... Mais sinon, le révélateur est là, et l'optimiste, c'est une question de volonté. Il faut intervenir positivement, il faut intervenir pédagogiquement sur cette plateforme.
Hervé Fischer, je vous remercie beaucoup.
Merci Yannick.
Et voilà, c'est la fin de notre première heure. Je vous invite à regarder ce soir à la télévision de Radio-Canada, 18h30, l'émission Découverte avec, entre autres, deux reportages. L'un qui s'appelle Cholestérol et statines. Le cholestérol est depuis très longtemps au banc des accusés. On le sait, les statines sont des médicaments qui abaissent le cholestérol. Puis l'autre reportage, c'est les mini-dinos, le mini-dinosaure, récemment découvert qui existait 125 millions d'années avant ses descendants. Ça, c'est ce soir à Découverte. D'ici là, vous restez avec nous à la radio pour le bulletin de nouvelles et pour la deuxième heure des années-lumière. Les années-lumière, deuxième heure. Rebonjour, Yannick Villieu, toujours à l'équipe pour vous présenter cette deuxième partie du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Alors, deuxième heure, on va d'abord suivre Sophie-André Blondin sur les chemins sonores, évidemment, de la semaine du son. Après le petit journal de la science, Nathalie Vigneault va nous parler des mœurs, disons, originales de la femelle d'un oiseau appelé le diamant mandarin. Et pour terminer l'émission, Hugues de Roussan va recevoir l'auteur de la semaine, le géographe Éric Lambin, qui a publié « Une écologie du bonheur » aux éditions Le Pommier. C'est un livre qui fera peut-être un malheur en librairie. Eh bien, nous vivons dans un monde dominé par l'image. Mais le son a encore sa place dans ce monde-là. Il a même sa semaine, Sophie-André Blondin, avec la tenue de plusieurs événements, donc, autour du son.
Oui, la semaine du son, c'est une invention française qu'on importe cette année au Québec sous la férule de la Société pour la promotion de la science et de la technologie. À Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Montréal aussi, jusqu'au 28 novembre, il y a des dizaines de conférences, des ateliers, des visites qui se tiennent sur le thème du son qui nous accompagne dans la vie, dans le métro, dans la musique, dans les laboratoires. L'ingénieur du son Christian Hugonnet est le président de la semaine du son en France.
Au Québec, je crois que ça ressemble à une formidable aventure qui s'installe dans un esprit scientifique, et c'est tant mieux, je trouve, parce que nous sommes sur des bases solides, je dirais, quand on parle de scientifique. Et c'est à travers cet aspect et cette approche scientifique qu'on va pouvoir avoir une vraie relation. Et c'est un des buts forts de la semaine du son, que d'avoir une vraie relation entre des gens qui travaillent le sonore, mais à travers ou dans des secteurs parfaitement différenciés. C'est une rencontre de tous les milieux d'activité liés au sonore.
Christian Hugonnet, président de la semaine du son, Sophie-André de la science, des rencontres, c'est plutôt sympathique, non?
On aime bien, alors ouais. Je vous propose quelques tout petits exemples, une mosaïque bien incomplète des activités qui seront proposées à partir de cette semaine. Suivez-moi d'abord à Québec, au cégep François-Xavier Garneau, où le professeur de physique Yvon Fortin vous propose de découvrir la nature physique du son.
Regardez bien maintenant. Quand je vais enfoncer la poignée, le gaz carbonique va sortir.
Là, on est dans le centre de démonstration. En fait, c'est un lieu, pour faire clin d'œil un peu à tous ceux qui enseignent, c'est un fantasme de prof. C'est-à-dire, c'est un lieu où on peut vraiment concevoir des montages, des démonstrations et des modes de présentation de ce qui nous intéresse pour vraiment faire en sorte que les gens voient et perçoivent ce qu'on souhaite qu'ils voient pour mieux comprendre ce qu'on essaie de leur expliquer.
Voici ce que je vais faire. Je vais comprimer l'air violemment. Est-ce qu'il va y avoir de la pression d'air?
Alors, c'est ici, avec tous les instruments d'expérimentation dont vous disposez, que vous allez nous donner à voir le son.
Absolument. En fait, tous les phénomènes qui se déroulent quand le son se propage, en fait, quand on le produit, c'est des oscillateurs qui produisent le son. Pour qu'il y ait du son, ça prend un milieu matériel porteur d'énergie. L'air en est un, l'eau en est un, les solides en sont d'autres. Donc, quand on fait vibrer la matière, l'énergie se propage par vibration. Puis ça, ça se montre. C'est-à-dire, il y a des phénomènes ondulatoires qui sont visibles, visuellement intéressants à regarder, comme les vagues, c'est des ondes, mais pas des ondes comme le son. Par contre, les vagues se comportent comme les ondes sonores. Donc, on peut se servir de bassins de liquide pour illustrer, par exemple, l'effet Doppler, les effets d'interférence. Parce que là, visuellement, ça va être d'une limpidité terrible. Alors qu'avec le son, l'interférence, on le perçoit par les oreilles, mais on ne voit pas qu'est-ce qui se passe dans l'air autour de nous. L'air est invisible, est transparent. Donc, nous, on va utiliser ce genre de moyens-là, par exemple, un slinky immense, pour montrer comment la vitesse des ondes varie selon la densité de l'air. Phénomène qui a l'air insignifiant, mais je suis sûr que les gens ont déjà constaté le fait, par exemple, qu'autour d'un lac l'été, en plein jour, quand les gens crient l'autre bord du lac, on ne les entend pas. Mais le soir, ils parlent et on entend leur conversation. Bien, c'est un effet de réfraction qui s'explique par la vitesse différente de propagation des sons dans l'air quand la densité de l'air varie. Bien ça, là, je vous le dis de même, ça a l'air compliqué, mais quand on le montre avec les bons outils, ça devient un enchaînement qui rend l'explication presque comprise sur le champ. Puis je pense que c'est important de comprendre un peu mieux toutes ces choses-là pour toutes sortes de raisons, Une des raisons principales, c'est que à cause de la technologie, maintenant, il y a des jeunes qui s'abîment les oreilles sans s'en rendre compte. Donc ça, c'est un des aspects. Mais je vous dirais, malgré tout, qui n'écoute pas de musique dans une journée? Qui serait capable de passer une journée complète dans le silence absolu, à part quelques ascètes? La majorité d'entre nous, on aime bien un environnement sonore agréable. Puis quand il n'est pas là, on se le trimballe sur les oreilles avec des écouteurs. Donc finalement, le son, c'est pas négligeable dans une vie.
Et dans un labo, le son, c'est intéressant?
Absolument, parce que là, mesurer ces facteurs-là, ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire, on peut bien parler de l'amplitude, la fréquence, l'interférence, tous des beaux mots. En fait, certains vont trouver des mots dégueulasses, mais moi, je trouve que c'est des beaux mots, là. Mais si on veut les illustrer, comment on s'y prend pour dire, par exemple, que le passage d'une onde sonore peut modifier la température de l'air? Bien, ça, il faut faire des mesures. Tu peux pas deviner ça en écoutant de la musique. Il faut absolument mesurer. Donc, on se ramasse en laboratoire, dans des bouteilles, à imaginer que ce qu'on mesure peut être transposé dans une réalité plus grande, comme dans l'atmosphère complète de la planète ou à l'intérieur de la Terre. Si on sait que l'intérieur de la Terre est liquide, c'est parce qu'on ausculte la Terre avec des ondes acoustiques, les ondes produites lors des tremblements de terre. Donc, les ondes sonores nous permettent de dire ce qui se passe sous le sol sans même y aller. C'est quand même pas rien. Donc, finalement, le son, c'est beaucoup plus riche que ce que la majorité des gens en croient.
Si j'ai réussi mon coup, il va se produire là. Ce qui s'est passé dans le soleil, mais à l'échelle Fortin. 3, 2, 1. Donc, l'étincelle que vous venez de voir là, c'est l'étincelle qui se produit dans nos têtes quand on commence à comprendre les aspects qu'on comprend.
Yvon Fortin, que vous avez rencontré chez lui, Sophie André, au Centre de démonstration des sciences physiques à Québec.
Bien, je vous emmène maintenant à Sherbrooke, dans des laboratoires d'acoustique industrielle qui sont voués à la réduction du bruit des laboratoires qui vont ouvrir leurs portes aussi au public pour la semaine du son. Notre guide, Alain Berry, professeur au département de génie mécanique à l'Université de Sherbrooke.
Alors là, on rentre dans le laboratoire du groupe d'acoustique. Il comprend des différentes installations, infrastructures qui sont relativement uniques au Québec, même au Canada, qui nous permettent d'étudier principalement en ce moment des applications en acoustique du transport, en aéronautique, en domaine l'automobile, ferroviaire. Alors on a par exemple devant nous une maquette de cabine d'avion, on a des installations qui simulent les vibrations d'une transmission d'hélicoptère.
Et vous avez dans le fond des chambres particulières qui vous permettent de faire des mesures très précises.
Voilà, alors on a ce qu'on appelle une chambre de transmission qui est en fait composée de deux chambres, deux locaux qui sont adjacents. D'un côté, un local, une chambre qu'on appelle anéchoïque. Alors anéchoïque, ça veut dire sans écho. Et de l'autre côté, une chambre réverbérante, où au contraire, on va essayer de créer le maximum de réverbération ou d'écho possible.
On va s'y rendre tout d'abord. Et voilà la chambre anéchoïque.
Donc, on doit faire en sorte que le son ne peut pas rentrer dans cet espace. Et puis, une fois qu'il est rentré, il faut qu'il soit le plus possible absorbé par toutes ces parois-là qu'on voit, qui sont ce qu'on appelle des dièdres de laine minérale. Ces formes, ces triangles, ces cônes un petit peu de laine minérale, ils font en sorte qu'on ait une surface effective d'absorption acoustique qui est augmentée. Alors ça donne cette impression très sourde. Des fois, pas agréable, il y a des gens qui n'aiment pas l'impression qu'on a ici parce qu'on perd un petit peu notre capacité à localiser. On utilise beaucoup les réflexions du son sur les parois de l'environnement pour localiser, pour se repérer dans un espace. Alors ici, on n'a plus cette capacité. Donc ça donne un petit peu un sentiment d'oppression à la limite qui est pas forcément très agréable. On a des gens qui travaillent 8 heures par jour presque ici. Et c'est pas forcément très très intéressant d'être longtemps dans une chambre anéchoïque. C'est comme si on flottait dans l'air, dans l'espace, dans le ciel, et on est complètement isolé vis-à-vis de sources acoustiques sans parasites. Donc on peut faire des mesures du son provenant de machines, de procédés, dans des conditions très très propres.
Donc quand on fait du bruit à côté, après on a une sonde spéciale avec deux microphones, une sonde d'intensité. Et on mesure la puissance acoustique qui est rayonnée par le panneau. On connaît la puissance acoustique de l'autre côté, parce qu'on la mesure avec le microphone. Ici, avec notre sonde, on mesure ce qui revient. Et donc, à ce moment-là, on connaît la performance du panneau.
Alors, vous installez un panneau, ça peut être un panneau de bâtiment, ça peut être...
En ce moment, c'est du bâtiment. On travaille pour une compagnie qui est dans le bâtiment, mais ça peut être des bouts d'avion, des bouts de voiture, des bouts de à peu près tout et n'importe quoi.
Et l'autre chambre, on va y aller.
C'est isolé, mais on dirait qu'on rentre dans un coffre-fort.
Regardez, c'est complètement isolé du reste du bâtiment. La construction est vraiment indépendante.
Et c'est ici.
Et c'est ici la chambre réverbérante. Cette chambre-là est montée sur ressort, ce qui permet de l'isoler complètement du reste de la bâtisse.
Alors, et tout est en béton, en matériaux très, très durs, très réfléchissants pour le son.
Voilà, c'est une construction avec des gros murs épais en béton qui sont traités, recouverts avec une peinture très spéciale, très, très scellante, de façon à créer des conditions de réflexion acoustique presque complète et de faire en sorte que, en fait, on a ici le maximum de réverbération, d'écho possible.
C'est un rotor d'hélicoptère, parce que s'il y a un milieu qui est bruyant, c'est bien l'habitacle d'un hélicoptère.
C'est encore quelque chose sur lequel les constructeurs travaillent énormément pour essayer de réduire le bruit, d'augmenter le confort pour les passagers, pour les pilotes. On a devant nous la source principale en fait, du bruit à l'intérieur d'une cabine d'hélicoptère, qui est la transmission. C'est une source de vibrations et ces vibrations se transmettent ensuite vers la structure du toit de l'hélicoptère qui, elle-même en vibrant, rayonne du bruit à l'intérieur de l'habitacle. Et ce qu'on fait ici, qui est un petit peu particulier, c'est que cette vibration et ce bruit, on essaie de le traiter par un principe de contrôle actif. Alors le contrôle actif consiste en fait à rajouter par-dessus la vibration nuisible une vibration qu'on va essayer de contrôler parfaitement, qu'on va générer nous-mêmes et qu'on va contrôler le mieux possible pour que cette vibration, en fait, interfère destructivement, annule la vibration primaire, la vibration nuisible qu'on veut réduire. Donc cette vibration secondaire contrôlée, elle est générée par ces petits systèmes-là qui sont des actionneurs,
qui sont tout petits.
C'est des céramiques, c'est des patchs, des patchs, ça s'appelle comme ça, des patchs piézocéramiques. Alors c'est des matériaux qui ont des propriétés particulières, qui génèrent des vibrations lorsqu'ils sont soumis à un champ électrique. Ah, il y a la balayeuse.
Ah oui, il n'y a pas que des choses très spectaculaires comme des hélicoptères, on tombe dans le domestique ici.
Oui, c'est plus dans le domaine de tous les jours. Effectivement, c'est des aspirateurs centraux, comme on en a bien souvent installés à la maison. L'aspirateur, en tant que tel, souvent est installé au sous-sol. C'est une source importante de bruit, je peux faire entendre. Alors ça, c'est l'original. La version améliorée acoustiquement. Donc c'est très sensible. Alors en fait, la compagnie qui a travaillé avec nous sur ce projet-là, qui est Duovac, pour ne pas la nommer, a même commercialisé ce nouveau modèle sous le nom de Silentium.
Ici, on ne parle pas de contrôle actif avec des céramiques piézo-acoustiques. C'est un contrôle passif du son.
C'est un contrôle passif, tout à fait. Alors, ce qu'il faut dire tout de suite, c'est que le contrôle passif, c'est de loin le plus utilisé en pratique parce que c'est souvent bien préférable de commencer par essayer de réduire passivement le bruit. Alors, passivement, ça veut dire quoi ? Donc, c'est une reconception, finalement, des différents organes en rajoutant éventuellement des traitements isolants, des traitements avec des matériaux absorbants pour réduire en fait l'ensemble des composantes qui sont responsables du bruit.
Et là, on s'en va.
Alors on s'en va prendre l'avion.
Volontiers.
On ne s'intéresse pas ici nécessairement à combattre le bruit, à réduire le bruit. On peut éventuellement s'intéresser à le reproduire le plus fidèlement possible. Donc on est ici devant une maquette à pleine échelle d'une cabine de Regional Jet. Et ce qu'on fait ici, c'est qu'en laboratoire, sur cette maquette, on essaye de reproduire, recréer aussi fidèlement que possible le champ acoustique que des passagers vont entendre dans différentes situations de vol.
Oui, est-ce que... Oui, allez-y.
Oui,
vas-y. Ah oui, c'est tel quel, les porte-bagages au-dessus de la tête.
Oui. Ah, prêt au décollage.
Your mobile phones, cell phones and radio transmitters must now be switched off. Je sens la vibration.
Oui, alors ça c'est important parce que ça participe beaucoup à l'expérience sonore. Là, les moteurs sont en train de passer à pleine puissance.
Oui, ça baisse un peu.
Oui. Là, on va se mettre à planer, j'ai l'impression. On coupe les moteurs, on coupe tout, on tombe. Oui, alors ce qu'on entendait, on peut percevoir toute la subtilité finalement du son, on n'y prête pas attention, mais dans une cabine d'avion, on entend beaucoup, beaucoup de choses. On entend les moteurs, on entend l'écoulement aérodynamique, ce qu'on appelle la couche limite turbulente qui est à l'extérieur du fuselage et qui crée une vibration de toute la structure. Cette vibration ensuite crée du bruit dans la cabine. On entend le bruit des systèmes de ventilation, on entend le bruit de toutes sortes de systèmes, de pompes, de volets, de trains d'atterrissage qui se déploient ou non. Donc c'est un son qui est relativement riche et ici le défi c'est de le reproduire et de le spatialiser le plus possible, c'est-à-dire de faire en sorte que si l'envie me prend de me déplacer dans la cabine, ben, je vais avoir l'impression réelle de ce que j'entendrai dans l'avion. Donc c'est quelque chose qui est relativement fascinant d'essayer de reproduire un champ acoustique et d'essayer finalement de créer une réalité virtuelle d'un point de vue sonore.
On doit être atterri parce que on je vois atterri, des gens à travers
oui,
les hublots.
C'est ça, alors. Je pense qu'il faut descendre.
On ne doit pas être dans les airs. Merci, bon voyage, très beau voyage.
2 minutes, on n'a pas été loin.
Très bien.
Alors Sophie André, après les laboratoires d'Alain Berry à l'Université de Sherbrooke, vous nous emmenez où sur la piste du son?
Je vous emmène à l'École Polytechnique à Montréal, dans un laboratoire du département de génie. Et là, dans un désordre sympathique, on trouve un couple inusité, un petit ukulélé et de la fibre optique. Le doctorant Bilal Ben Salem passe ses soirées dans ce laboratoire au perché sur le Mont-Royal à préparer les prototypes de ukulélé et de guitare au laser qui vont faire la tournée des écoles pendant la semaine du son. Il nous explique comment fonctionnent ces instruments à cordes optiques, comment son professeur, Raman Kashyap, a eu l'idée de transformer la lumière en son.
Mon professeur était en train de faire une démonstration à ses élèves avec des fibres et par hasard, elle a remarqué que ça donne du son. Et donc là, elle a commencé des études pour comprendre ce qui se passe et elle a sacrifié sa première guitare à lui.
C'est celle-là?
Oui, c'est une guitare normale acoustique. C'est la première guitare optique au monde.
Au monde?
C'est ça. C'est juste un seul fibre qui fait le va-et-vient avec un laser qui passe au milieu dans le fibre. Et en frappant la guitare comme une guitare normale, on génère une perturbation à dans le laser qui va être détectée par notre photodiode.
Et l'objectif dans le ukulélé, c'est que vous faites voyager une lumière dans la fibre optique qui est la corde du ukulélé.
C'est ça, oui.
Et qu'est-ce qu'elle devient, cette lumière-là?
On a à la fin du fibre, on a ce qu'on appelle le photodiode. Le photodiode, c'est quelque chose qui sert à convertir la lumière à un signal électrique. Une fois que c'est converti en signal électrique, on peut après le filtrer, l'amplifier, manipuler comme on veut. En plus, ici avec le ukulélé, on a l'option de régler une seule fibre. On n'a pas vraiment besoin d'aller régler les autres. Et puisque c'est la même fibre, une fois que ça c'est réglé, elle va automatiquement régler les autres.
Elle s'auto-accorde.
Oui, exactement, elle s'auto-accorde. Mais ce qui se passe ici, on a gardé les autres mécanismes quand même, parce que des gens qui nous ont conseillé, que les musiciens aiment vraiment accorder leur propre.
Ça fait partie du concert.
C'est ça, exactement. Donc, on a quand même gardé, ils peuvent toujours jouer avec, mais on n'a pas vraiment besoin de le faire.
Alors, c'est une concession que la science fait à l'art.
C'est ça, exactement, oui. le fibre qu'on utilise, la fibre optique, c'est une fibre optique spéciale qui a été faite spécialement pour cette application parce que ça doit, on dirait, un peu plus de tension que la fibre normale. Un collègue de moi qui est parti en Australie pour faire ça avec un groupe de recherche là-bas en Australie.
Pour faire de la fibre optique pour des instruments de musique laser.
C'est ça, oui.
pourquoi prendre ce grand détour pour générer des sons de la fibre avec un rayon laser au lieu des bonnes vieilles cordes qui vibrent et qui donnent directement un son?
Oui, c'est une bonne question, ça. Avec ça, on peut aller chercher des notes musicales qu'on n'était pas capable de les faire avant. Ça, c'est un avantage. En plus, moi, personnellement, je vois ça, c'est comme... parce que c'était la même question qui t'est posée quand la guitare électrique est sortie. Pourquoi on fait tout ça et on reste pas avec la guitare acoustique? Ben, c'est une autre approche. Peut-être, j'espère un jour, je vois ça comme un troisième type de guitare.
Une guitare laser.
Une guitare laser, c'est ça. En plus, ces fibres-là, on peut les faire lumineuses. C'est faisable, c'est possible. Qu'on peut, ça soit transparent et les gens, ils peuvent voir les fibres de loin, il y a de la lumière là-bas. On peut même aller au point où on peut changer la couleur de la lumière de la guitare. Donc,
quel spectacle!
Ouais, c'est ça. On est au début du chemin, mais j'espère et je crois que ça va avoir un grand futur.
Oui, c'était Bilal Ben Salem, Sophie André. Il y a un petit peu encore de travail sur la guitare au laser.
Sur la musique et sur la guitare au laser. Oui. Mais Yannick, si dans quelques décennies, vous assistez avec votre petit-fils à un concert rock où les cordes de guitare émettent des couleurs en plus des sons inusités, ben rappelez-vous, vous l'aurez entendu d'abord aux années lumière.
C'est ce que son grand-papa a pris comme substance.
Peut-être aussi. Alors à Sherbrooke, à Québec, à Trois-Rivières, à Montréal, c'est donc la semaine du son. Elle est en cours. En fait, c'est une longue semaine puisqu'elle dure jusqu'à la fin du mois. Consultez la liste des activités, il y en a vraiment pour toutes les oreilles.
Merci beaucoup, Sophie André.
C'est plaisir.
Sauriez-vous décrire l'odeur caractéristique des vieux livres? Un mélange de notes grasses avec une pointe d'acidité et un soupçon de vanille sur fond de moisi, si on en croit des chercheurs britanniques, qui proposent d'utiliser ce parfum bien particulier pour caractériser l'état de dégradation des vieux ouvrages. Après avoir analysé les composés volatiles qui émanaient de 72 publications du 19e et du 20e siècle, les scientifiques ont identifié 15 de ces composés qui pourraient servir à établir l'état de décomposition d'un livre et ainsi faciliter sa conservation. Les chercheurs ont eu cette idée après avoir constaté que les conservateurs de musées, quand ils veulent évaluer un ouvrage d'un âge vénérable, ont le réflexe de le renifler. Leurs travaux sont publiés dans la revue Analytical Chemistry.
Amputé de ses deux bras, un Autrichien de 22 ans peut à nouveau conduire sa voiture. Christian Kandelbauer a été victime d'une décharge électrique de 20 000 volts il y a 4 ans et a dû subir l'amputation de ses deux bras. Il peut maintenant, par sa seule pensée, actionner ses deux bras artificiels grâce à un système électronique complexe qui traite les signaux électriques émis par son cerveau. Ces signaux sont ensuite acheminés par les nerfs au point d'amputation. Là, ils sont récupérés par des connexions électriques qui, à leur tour, les transmettent au bras artificiel. Christian Kandelbauer est le premier à recevoir ce type d'équipement doté d'une intelligence artificielle. Il a obtenu son permis de conduire la semaine dernière et peut maintenant se rendre à son travail dans sa voiture spécialement aménagée pour ses besoins. Il avoue apprécier avoir retrouvé sa liberté de mouvement, mais du même souffle, il se dit particulièrement content de pouvoir à nouveau boire un verre de bière sans utiliser de paille. On le comprend.
Rosetta nous a fait l'honneur d'une dernière visite cette semaine, le temps de profiter d'une poussée gravitationnelle de la Terre. Ensuite, elle est repartie vers son prochain rendez-vous.
Elle a le temps de s'y préparer. La sonde chasseuse d'astéroïdes doit atteindre la comète Churyumov-Gerasimenko en mai 2014. Rosetta doit cartographier cette comète afin de trouver un endroit propice pour que son atterrisseur, Philae, se pose. Philae s'accrochera à la surface de la comète pour se consacrer à l'étude des éléments de sa surface et de son noyau. L'Agence spatiale européenne responsable de la mission Rosetta espère contribuer à une meilleure compréhension du rôle des comètes dans la formation de notre planète. Au début du mois, un article publié dans la revue Nature par Francis Albared suggérait que l'eau des océans aurait été amenée plusieurs dizaines de millions d'années après la formation de la Terre par le bombardement de comètes et d'astéroïdes.
C'est demain à Rome que s'ouvre le sommet mondial sur la sécurité alimentaire de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À l'heure actuelle, plus d'un milliard de personnes souffrent de la faim et de malnutrition. Selon la FAO, il faut accroître les investissements, entre autres en recherche et développement, afin que tous et toutes aient accès aux connaissances et aux technologies agricoles, peu importe leurs moyens. La FAO estime par ailleurs qu'il faudra augmenter les rendements agricoles de 70 % pour nourrir les 9 milliards et quelques humains qui vivront sur Terre en 2050. À quand une deuxième révolution verte? La réponse la semaine prochaine aux Années-Lumière avec un reportage spécial diffusé de Rome.
Eh, quel joli cri, hein. C'est un cri très particulier, un cri donc d'un petit oiseau d'Australie qu'on appelle le diamant mandarin. Évidemment, c'était un mâle, on l'a bien reconnu. Et cet oiseau, si vous voulez nous en parler aujourd'hui, Nathalie Vigneault, c'est parce que son comportement reproducteur est vraiment surprenant.
Oui, c'est à l'écoute de ce chant que la femelle diamant mandarin distingue le mâle qu'elle recherche. Ce qui est surprenant, c'est que son choix n'est pas toujours en faveur du meilleur chanteur ou du plus qualifié, comme le veut la théorie traditionnelle de la sélection sexuelle.
Oui, la théorie du bon vieux Darwin, hein, qui dit que le géniteur veut toujours transmettre les meilleurs gènes possibles à la descendance.
Pour le diamant mandarin, ce n'est pas nécessairement le cas. C'est ce que Marie-Jeanne Holweck, chercheure au CNRS Montpellier en France, a observé lors de son étude menée à l'Université de Leiden aux Pays-Bas et publiée dans le Proceedings of the Royal Society.
La théorie traditionnelle de la sélection sexuelle, en fait, prédit que les femelles devraient toujours préférer les mâles de meilleure qualité. Parce qu'en fait, les mâles de meilleure qualité sont censés être les mâles qui peuvent apporter une meilleure qualité ou quantité de ressources aux femelles et aux jeunes, ou alors ils peuvent simplement donner leur qualité à leurs descendants. Donc en fait, cette dernière étude, ça montre justement que contrairement à cette théorie traditionnelle, il y a certaines femelles qui préfèrent des mâles de moins bonne qualité. Donc en fait, le test de préférence qu'on a fait donc chez nos femelles, c'était un test basé sur le chant uniquement. En fait, le chant chez les diamants mandarins et chez de nombreux oiseaux chanteurs, c'est un trait qui joue un rôle important dans le choix de partenaire. Donc les femelles choisissent sur la base de ce trait, parce que ce trait reflète la qualité des mâles. Ici, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enregistré les mâles et les femelles pouvaient presser sur des boutons. On les entraîne à faire ça, elles apprennent très rapidement. Et donc, les femelles de bonne qualité préféraient les chants de mâles de bonne qualité et les femelles de mauvaise qualité préféraient les chants de mâles de mauvaise qualité. Quand on les a fait reproduire, soit avec un individu de la même qualité qu'eux-mêmes, soit avec un individu d'une qualité donc opposée. Et on s'est rendu compte que dans les couples de qualité assortie, en fait, les femelles pondaient plus tôt. Donc ça, c'était totalement en accord avec le résultat des tests de choix basés sur le chant. Mais par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est que toutes les femelles, peu importe leur qualité, pondaient des œufs plus gros quand elles étaient accouplées avec des mâles de meilleure qualité. Ça nous montre une chose déjà très importante, c'est que les femelles de mauvaise qualité, elles sont capables de savoir quand elles sont accouplées avec un mâle de bonne qualité.
Donc, Marie-Jeanne Holweck, chercheure en écologie comportementale au CNRS, à Montpellier, dans le sud de la France. Alors donc, la femelle pondrait des œufs plus gros en présence d'un meilleur mâle. C'est quand même étonnant, Nathalie, non?
Oui, c'est que, sachant cela, la femelle investirait plus de soins, plus de nutriments dans ses œufs, selon la chercheure.
Et en ce qui concerne maintenant le choix là, du partenaire selon la qualité, est-ce qu'on sait pourquoi la femelle agit de cette façon-là?
En fait, Yannick, on sait que les diamants mandarins doivent se reproduire très rapidement pour que leurs petits profitent de la végétation produite après les rares pluies du désert australien. En choisissant un mâle de sa qualité, la femelle s'assure que ce dernier ne quitte pas pour meilleur et maximise ainsi ses chances de se reproduire.
Oui, donc à chacun sa chacune.
Oui, voilà. Ouais. Chose intéressante, ce comportement trouverait d'ailleurs écho chez l'être humain. À nouveau, Marie-Jeanne Holweck.
Ben, en fait, c'est rigolo parce que quand on a eu les résultats de cette étude, on s'y attendait pas vraiment, on pensait pas trouver ces préférences assorties. Quand on est allé regarder dans les littératures, on a trouvé en fait qu'il y a quelque chose qui est très similaire chez les humains. Ça reste des études corrélatives parce que, comme vous le savez, chez les humains, c'est très difficile de faire des expériences. Mais malgré tout, ces études montrent quelque chose de très similaire. Donc, en fait, si on demande à des femmes de nous dire avec quels hommes elles aimeraient sortir, on trouve que la façon dont elles perçoivent leur propre attractivité va influencer, en fait, ce qu'elles trouvent attractif chez les hommes. Donc, une sorte de préférence assortie aussi basée sur la propre perception qu'on a de notre attractivité.
Marie-Jeanne Holweck du CNRS Montpellier en France. Alors, très intéressant, hein, mais quand même, Nathalie, comparer l'homme à l'oiseau, ça demeure un petit peu risqué, avouons-le, non?
Oui. En effet, l'être humain est beaucoup plus complexe et c'est pourquoi les spécialistes du comportement animal utilisent parfois des observations faites chez les animaux pour tenter de comprendre les comportements humains. La question maintenant est de savoir comment la femelle diamant mandarin fait pour s'auto-évaluer afin de faire le bon choix de partenaire. Pour nous en parler, je suis allée rencontrer Luc-Alain Giraldo, professeur et directeur du département des sciences biologiques à l'UQAM. Il étudie lui aussi le diamant mandarin, qui est considéré comme l'oiseau-souris de laboratoire en étude du comportement animal.
Chez le diamant mandarin, moi, ce que j'étudie, c'est justement l'effet social des femelles qui observent d'autres femelles choisir. Les femelles qui observent, elles veulent pas nécessairement s'accoupler avec le mâle qu'elles voient accoupler, mais elles font une analyse de son type. On a fait des expériences avec des mâles qu'on a enlaidis en leur mettant une crête. Mais une fois qu'elles s'habituent à avoir un partenaire avec une crête, si on monte à des jeunes femelles, des mâles à crête qui sont appariés avec des femelles versus des mâles sans crête qui sont seuls, si on leur monte ça 10 minutes, 2 fois, elles vont préférer pas ce mâle-là, mais d'autres mâles à crête. Donc, elles se laissent influencer dans leur préférence en voyant les autres. Elles utilisent l'information. Et ça aussi, c'est peut-être quelque chose d'important pour une espèce comme le diamant mandarin qui doit s'accoupler de façon très rapide et qui peut-être a besoin de se faire dire par d'autres c'est qui les beaux mâles, c'est qui les moins beaux. Dans tout ça, je ne sais pas comment les femelles viennent à savoir si elles sont belles ou non. Il y a un chercheur postdoctoral qui s'appelle Tim Fawcett. Et lui, justement, il travaille sur la problématique. Il suppose que les animaux, au départ, n'ont aucune idée. Et c'est le nombre de refus qu'ils essuient qui leur donne un indice rapide de leur qualité intrinsèque. C'est un modèle théorique, là, mais ça pourrait être une façon dont les mâles et les femelles très rapidement décident s'ils sont de haute ou de basse qualité. J'espère que chez les humains, c'est pas le cas, là. Ce serait malheureux qu'une chaîne de mauvais événements à l'adolescence décide qu'elles sont peu attractives. Je sais pas, ça soulève beaucoup de questions.
Luc-Alain Giraldo, qui est professeur au département des sciences biologiques de l'Université du Québec à Montréal. Alors, ces comportements de sélection ne sont donc, chez les mandarins, là, ne sont pas complètement innés. Il y aurait une part d'apprentissage?
En effet, et cet aspect culturel, c'est le résultat d'apprentissage et d'échanges entre individus au sein d'un groupe. Cette culture chez les animaux est même en train de changer une certaine culture de la science du comportement animal qui tient compte de plus en plus des choix des moins forts ou des moins qualifiés dans la sélection sexuelle. Luc-Alain Giraldo à nouveau.
Je pense que c'est une tendance lourde en écologie comportementale de se rendre compte de plus en plus que la variation entre les individus, c'est pas de l'erreur, c'est pas un effet du hasard. Que cette variation-là, il existe des mécanismes qui la maintiennent. Ce qui est étonnant avec la sélection naturelle, c'est que la sélection naturelle devrait à terme éliminer toute variabilité. Hein, on devrait tout être pareil. Et le fait que nous ne sommes pas tous identiques, au départ, c'était expliqué comme de l'erreur, de parcours, de développement, etc. Mais ça ne se peut pas, parce que la sélection, c'est quand même une force très puissante. Et malgré cette sélection, constante au cours des milliers d'années, on se retrouve quand même avec des animaux qui sont très différents les uns des autres. Donc, il existe des mécanismes qui, dans certains cas, maintiennent ces différences, ne serait-ce que des mécanismes qui font en sorte qu'on a des mâles et des femelles. Il y a des mécanismes qui font en sorte qu'il y a des gros et des petits, des rapides et des lents, des intelligents et des moins intelligents. Avant, c'était vu comme simplement, il existe un idéal platonique. Et tout ce qui varie autour, ben, c'est des imperfections. Maintenant, on se rend compte de plus en plus que la sélection naturelle est aux prises avec des mécanismes qui l'empêchent d'arriver à tout éliminer. Parce que lorsqu'il y a des phénomènes de société, le succès des uns affecte le succès des autres. Et c'est vrai pour l'ensemble des caractéristiques phénotypiques des individus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en isolement, dire « cet individu, il est bon, il n'est pas bon », c'est en rapport avec les autres individus. Et le fait qu'il performe d'une certaine façon, ça va affecter la performance des autres. Et ça crée des niches pour de la variabilité qui se maintient de manière pérenne et stable au cours des années.
Et c'est vrai aussi pour les animaux d'une espèce à l'autre, il y a tant de diversité au niveau des comportements, c'est pas pour rien.
Oui, on peut reporter le même sorte de raisonnement, si vous voulez, c'est des mécanismes différents qui opèrent, mais ils ont la même conséquence, c'est-à-dire ce qui produit la biodiversité, et ce qui produit des écosystèmes qui sont stables et qui sont d'autant plus stables qu'il y a d'éléments qui le constituent. Donc oui, on pourrait porter le même raisonnement à un niveau plus élevé, à une échelle plus haute.
C'était Luc Alain Giraldo, professeur d'éthologie, directeur du département de sciences biologiques à l'Université du Québec à Montréal. Nathalie, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie.
Et pour terminer l'émission, voici l'auteur de la semaine. Il s'appelle Éric Lambin. Il a écrit un livre intitulé « Une écologie du bonheur » paru aux éditions Le Pommier. Éric Lambin est géographe et professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique et à l'Université Stanford en Californie. Il est également membre des Académies des sciences et de la Belgique et des États-Unis. Hugues de Roussan s'est entretenu avec l'auteur qui s'interroge sur le bien-être de l'être humain qui dépendra, selon lui, de sa capacité à résoudre les problèmes du XXIe siècle en matière de santé, de sécurité et de développement durable.
Ma conviction est que dans cette nécessité d'une transition vers un développement durable, il est temps de passer de l'alarmisme qui a prévalu jusqu'à présent, mais qui était nécessaire pour mobiliser le public, à une phase plus positive où on met en avant des motivations réellement positives, où le développement durable n'est plus perçu comme un renoncement à un certain degré de bien-être, un sacrifice, mais bien une voie pour trouver ou retrouver le bonheur, améliorer sa santé, garantir sa sécurité.
Alors quand vous parlez de bonheur, est-ce que vous parlez de bonheur mesurable, quantifiable, ou c'est plutôt une perception du bonheur que peut avoir l'être humain en fonction d'un certain nombre de variables?
Ces deux facteurs se réconcilient de plus en plus avec les progrès de la science en psychologie, en économie. On a pu montrer que la perception subjective d'un individu, de la satisfaction qu'il a de sa vie, est fortement associée à des indicateurs beaucoup plus objectifs, comme certaines activités du cerveau qui correspondent à des zones de la satisfaction générale. Et qu'en effet, il y a une série d'études statistiques qui ont montré que la manière dont les gens évaluent leur propre bonheur est bien conforme à leurs conditions relativement objectives qui mènent à une certaine forme de bonheur.
Et ces conditions objectives, dans votre livre, vous parlez de santé, vous parlez de sécurité. Est-ce que ce sont là les deux grands facteurs qui déterminent le bonheur ou le bien-être de quelqu'un ou d'une société?
Alors, ce ne sont pas les seuls. Donc, il y a une série de facteurs liés au bonheur qui sont liés à la vie familiale, au réseau social, à la satisfaction qu'on a de son travail, etc. Dans mon livre, j'ai voulu me pencher sur ces dimensions du bonheur qui sont en lien, direct ou indirect, avec la nature, avec l'environnement naturel. Car c'est ça qui permet de lier en quelque sorte la quête du bonheur avec cette nécessaire transition vers une utilisation plus durable de notre environnement naturel. Notre mode de développement, relativement centré sur un bien-être matériel, sur une consommation en énergie qui est toujours croissante, a des effets pervers à long terme, à la fois sur l'environnement naturel, mais aussi sur les inégalités sociales très fortes entre les pays du Sud, les pays pauvres, un peu déshérités, et les pays industrialisés que nous connaissons. Alors la question que je pose, c'est finalement, est-ce que la facture de cet impact de notre croissance matérielle va-t-elle nous être présentée à un moment ou un autre sous une forme d'une diminution du bonheur par cette nature dégradée que nous léguons à nos enfants?
Est-ce que vous faites le lien entre bonheur, bien-être et la qualité de vie, notamment environnementale?
C'est vraiment ça que j'ai voulu développer dans le livre, hein, quels sont les différents chemins par lesquels la satisfaction que nous tirons de notre vie est associée à notre contact avec une nature relativement préservée. Alors, cette nature influence évidemment notre capacité à nous ressourcer psychologiquement, à trouver un sens spirituel à notre vie, mais également un impact sur la santé, un impact sur notre sentiment de sécurité, ce sentiment que nous sommes à l'abri du danger. Donc il y a plusieurs voies par lesquelles la nature influence notre bonheur.
Vous citez trois exemples dans le livre. Vous parlez du Costa Rica, du Vietnam et du Bhoutan qui ont adopté des politiques de reforestation. Est-ce qu'il suffit de faire pousser des arbres pour régler la question?
Pas du tout, mais j'ai voulu prendre un exemple. Les changements environnementaux sont multiformes. Hein. Il y a les aspects climatiques, biodiversité. Bon, ma spécialité propre est d'étudier les changements dans les écosystèmes terrestres. Et c'est un cas, un exemple où on a des mesures très objectives par satellite de la quantité de forêts, de la qualité aussi de ces forêts. Et donc voilà trois exemples où des pays ont réussi cette transition d'une phase de plusieurs décennies de déforestation rapide à une phase de reforestation. Ça nous permet de tirer des leçons générales. Sous quelles conditions peut-on réaliser une transition? Bien sûr, après, il faut généraliser ces leçons à d'autres composants de notre environnement naturel. Il n'y a pas que les forêts.
Mais des fois, il y a un effet pervers parce que vous le signalez bien, dans le cas du Vietnam, le Vietnam a exporté ses problèmes en important le bois pour ses usines des pays voisins qui, eux, maintenant, sont en situation de déforestation.
Alors, c'est ce qu'on appelle le déplacement et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit un peu partout dans les pays qui cherchent à résoudre leurs problèmes environnementaux. La solution la plus facile et la moins coûteuse, c'est simplement de les repousser chez les voisins. Que ce soit nos pays qui exportons nos vieux ordinateurs ou nos déchets toxiques, ou bien que ce soyons nos pays qui importent des beaux meubles en bois tropicaux, mais par-delà même, nous avons exporté évidemment la déforestation, que ce soit le changement climatique dont les responsables principaux sont les pays riches, mais dont les impacts les plus néfastes vont se faire ressentir chez les pays pauvres. Donc en effet, cette forme de déplacement chez les autres est une tentation grande pour certains pays, mais voilà, le fait de mettre le doigt sur le problème va également aider à trouver des politiques internationales ou autres qui vont contrôler cette fâcheuse tendance.
L'accès aux ressources naturelles et aux richesses est souvent source de conflits, alors que la rareté ne l'est pas.
C'est un paradoxe, en effet. Il y a de nouveau cette notion de conflit climatique. Certains ont cru penser que le conflit au Darfour serait lié au changement climatique, aux sécheresses, que le conflit au Rwanda, le génocide au Rwanda, aurait été motivé par une croissance démographique. En réalité, quand on regarde les travaux des politologues qui étudient les conflits et leurs racines de manière très approfondie, on se rend compte qu'il y a plus de tensions là où il y a abondance de ressources. Par exemple, au Kivu, c'est un très bon exemple, où là, c'est un pays très, très riche en ressources minières qui attise la convoitise de différentes factions. Et surtout, ce sont dans ces conditions-là que les gens ont les moyens financiers de mener des conflits relativement violents.
Ouais, il y a toute la question, par exemple, des diamants en Afrique, les richesses naturelles du Congo, il y a les pays où il y a le pétrole. Il y a toujours plus de tensions et de conflits potentiels de ces régions-là.
Dans le livre, j'en fais une étude un peu critique qui se base sur des données empiriques quand même assez solides. Et c'est vrai que nous avons toujours ce réflexe un peu néo-malthusien de dire voilà, la rareté des ressources, la croissance démographique va être origine de conflits et de famines. En réalité, parfois, il faut inverser son analyse et c'est l'abondance qui est à l'origine de ces conflits. Oui.
Un autre aspect, c'est la question de la santé. On dit toujours que la santé est la première richesse. Qui dit santé dit bien-être.
C'est en effet, surtout quand elle n'est plus là, hein, quand nous sommes tous en bonne santé, personne ne pense à quel point c'est un bien précieux, mais dès que nous avons un petit bobo, tout de suite nous nous rendons compte à quel point notre bien-être souffre de ce petit problème. Et là aussi, il y a plusieurs voies par lesquelles notre santé est menacée par les changements environnementaux. On parle aujourd'hui d'une quarantaine au cours des quelques dernières décennies de maladies émergentes, c'est-à-dire de nouveaux agents pathogènes. dont beaucoup sont en partie, j'insiste en partie, liés à des changements environnementaux, pas seulement climatiques, mais aussi la fréquentation d'habitats naturels plus reculés, la fréquentation d'espèces animales sauvages qui sont porteurs d'agents pathogènes, peut-être transmissibles sous une mutation génétique vers l'homme.
Dans le cas de ces nouvelles maladies, l'environnement est plutôt contribué à l'émergence de la maladie, mais n'a pas été la cause principale.
Oui, comme à peu près dans toutes les questions environnementales, nous sommes toujours dans des questions multifactorielles. Le contexte social, économique joue un rôle déterminant, le comportement des personnes, des institutions humaines. Donc presque jamais dans la science environnementale, il est possible d'attribuer à un seul facteur une conséquence, que ce soit les maladies ou les conflits ou les réfugiés. Donc nous devons toujours accepter une analyse qui prend dans ses bras la complexité, mais qui cherche à la rendre claire et à développer une compréhension relativement logique, enfin qui nous permet de faire des mesures et de mettre en évidence ces facteurs.
La mondialisation pèse beaucoup sur la santé générale à l'échelle planétaire. On parle de mondialisation économique, mais on parle aussi de mondialisation des microbes.
Voilà, c'est peut-être même ceux qui ont le plus profité de la mondialisation, puisque si les changements environnementaux contribuent à l'émergence de nouveaux microbes, la mondialisation permet à ces microbes de se disperser en quelques jours à travers l'ensemble de la planète, et donc ils ont un accès quasi permanent à plus de 6 milliards de personnes, ce qui est évidemment le rêve pour un microbe, car il peut réinfecter constamment d'autres personnes et donc se maintenir en vie. Donc en effet, nous avons, par la mondialisation, à la fois mis en place un système énorme qui génère de la prospérité, même s'il génère aussi des inégalités, mais nous avons aussi créé un véhicule pour ce qui est peut-être le pire de nos ennemis, les microbes, même s'ils sont très petits, ils nous sont très dangereux pour l'homme.
Oui, la peste de 1347 qui a tué à peu près le tiers de l'Europe a mis 15 ans pour passer de l'Asie à l'Europe, alors que le SRAS a mis juste quelques jours.
Alors, c'est le syndrome respiratoire aigu qui, souvenez-vous, est apparu d'abord dans la province de Guangdong et puis à Hong Kong en 2003. Et en effet, en quelques jours, par les avions et par les hôtels où des gens de diverses nationalités viennent passer la nuit, s'échangent les microbes sans s'en rendre compte et puis vont se disperser dans le monde. Ils contaminent au passage les autres personnes dans le même avion, puis leur famille, dont un membre va voyager un peu plus loin dans quelques semaines. Et voilà de nouveau ce véhicule très puissant à la mondialisation des microbes.
Un moyen pour combattre justement ces problèmes d'hygiène, ces problèmes de santé, c'est tout simplement une bonne toilette moderne avec une chasse d'eau. Or, ce n'est pas si simple que ça. La moitié de l'humanité ne possède pas cet outil. Et c'est peut-être l'outil technologique qui a le plus amélioré la santé générale de l'être humain.
C'est pas très glorieux de parler ainsi de la toilette, mais en effet, tout à fait, si on compare aux autres technologies, même aussi magnifiques que l'ordinateur ou la téléphonie, etc., un système sanitaire bien géré qui évacue les déchets, qui empêche cette recontamination des personnes via ce qu'on appelle le péril fécal, est certainement ce qui mérite la palme de la technologie qui a apporté le plus à l'humanité en termes d'espérance de vie, avec toutes ses conséquences évidemment positives dès que vous avez une toilette sur l'hygiène quotidienne. Et pourtant, voilà, à l'ère où on parle d'envoyer des vaisseaux spatiaux sur Mars, il y a toujours une fraction énorme de l'humanité qui n'a même pas accès à un système sanitaire décent.
Une autre question sur la perception du bonheur, c'est la sécurité générale, la sécurité physique. On vit dans des villes où la violence ne fait qu'augmenter. D'ici 2030, 70% de la population mondiale sera urbaine, alors qu'elle était de 3% en 1800, donc c'est un bond fantastique. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter de vivre dans les villes pour être heureux?
Alors, surtout pas, parce qu'à la fois, la ville est peut-être la manière la plus écologique d'occuper l'espace. Pensez qu'aujourd'hui, on concentre la moitié de l'humanité dans les villes qui elles-mêmes ne couvrent que 1 ou 2% des terres émergées. Donc, il n'y a pas plus écologique, en quelque sorte, pour protéger les habitats naturels. Par ce regroupement de ces hautes densités de population, on crée d'autres problèmes, des problèmes sanitaires parce que de nouveau la promiscuité facilite la circulation des microbes, des tensions sociales et surtout ce détachement, cet isolement de la nature verte. Donc on ne va certainement pas lutter contre l'urbanisation, mais essayer de la gérer, la rendre plus intelligente, plus agréable, plus conviviale en réintroduisant les espaces verts, les murs végétaux, les jardins sur les toits. Donc on trouve ce compromis entre ces effets bénéfiques et ces effets néfastes.
Pour nourrir ces populations urbaines, on a presque inventé l'industrie alimentaire. notamment dans les pays occidentaux avec un apport calorique en viande très important. Or, cet apport calorique rajouté au sucre cause des problèmes sérieux de santé. Donc, en fait, pour pouvoir bien vivre dans les milieux urbains, on crée des problèmes nouveaux.
Je dis souvent que parmi toutes les mesures que l'on peut adopter pour à la fois améliorer sa santé, augmenter son bonheur, le bien-être des autres et aussi diminuer l'impact environnemental, diminuer sa consommation en viande est probablement la mesure la plus efficace car elle a de multiples bénéfices sur toutes ces dimensions de la vie. C'est cette énorme industrie de la production de viande est un des moteurs des changements climatiques. C'est quand même 18% des émissions de gaz à effet de serre si on prend l'ensemble de la filière. Un moteur aussi de la déforestation par les pâturages. On va même chercher des aliments pour du bétail dans le fond des océans. Tous ces petits poissons qui sont pêchés sont utilisés en partie comme aliments pour bétail. Et en effet, lorsque cette consommation en viande est excessive, ce qui n'est évidemment le cas que dans les pays riches, hein, pas dans les pays pauvres, qui devraient là augmenter leur prise en viande, lorsqu'elle est excessive, eh bien, en effet, ça crée des problèmes de santé. Le cancer du côlon semble être associé. On n'a pas encore toutes les preuves scientifiques, mais il y a un lien très très fort entre cancer du côlon et consommation en viande, parmi d'autres problèmes de santé.
La révolution industrielle devait apporter le bonheur aux gens. La démocratisation des régimes politiques, la même chose. La poussée technologique au 20e siècle avait le même but. Au bout de la ligne, c'était améliorer le bien-être. La mondialisation également. Et aucun de ces grands mouvements n'a finalement réussi à le faire. Pourquoi pensez-vous que l'environnement pourra le faire?
Alors d'abord, je nuancerais quand même l'industrialisation, la croissance économique, la mondialisation ont apporté un surcroît de bien-être considérable à l'échelle mondiale. Évidemment, chaque fois, on arrive à un seuil. À un moment, on augmente le bien-être jusqu'à un certain point. Et une fois que tous les besoins matériels ont été satisfaits, ce qui est de nouveau uniquement le cas dans les pays riches, pas dans les pays pauvres et certainement pas pour la totalité de la population des pays riches, mais une fois que ce seuil est atteint, donc on doit changer de vitesse en quelque sorte, emprunter une nouvelle voie. Car les études, aussi bien en économie qu'en psychologie, montrent que le matérialisme n'apporte le bonheur que jusqu'à un certain point. Le défi d'une société de toujours innover, de ne jamais penser qu'on a trouvé la solution une fois pour toutes et qu'ad vitam, elle va nous apporter le bonheur. Il faut s'adapter aux nouvelles circonstances. Le bien-être matériel étant satisfait, c'est ailleurs qu'il faut chercher.
Je rappelle que Éric Lambin, géographe de formation, est aussi professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique et à l'Université Stanford en Californie. Fourni, également membre de l'Académie des sciences de la Belgique et des États-Unis. Merci beaucoup, M. Lambin, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission signée Dominique Lapointe, avec à la technique Michel Potvin, journaliste. Gaël Lucia Berdou, Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Chantal de Srivastava, au site internet Lily Marin, chroniqueur Hervé Fischer. C'est Yannick Villieu qui vous parle. Bonne semaine à l'écoute de la radio de Radio-Canada et à dimanche prochain pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.